Albert Robida, La vie électrique. Chapitre 2. La tournade était dans son plein. Les accidents causés par la terrible puissance du courant fou, par ses effroyables forces naturelles emmagasinées, concentrées et mesurées par l'homme, échappées soudain à sa main directrice, libre maintenant de tout frein, se multiplia sur une région représentant à peu près le cinquième de l'Europe. Depuis une heure, toutes les communications électriques se trouvant coupées, on peut juger de la perturbation apportée à la marche du monde et aux affaires. La circulation aérienne était également interrompue. Le ciel s'était vidé presque instantanément de tout véhicule aérien. L'ouragan avait le champ libre pour dérouler dans l'atmosphère ses spirales dangereuses. Mais bien qu'au premier signal de toutes leurs aéromètres, toutes les aéronefs se fussent garées au plus vite, quelques sinistres s'étaient produits. Plusieurs aérocabs, rencontrés par la trombe au moment où elle fusait du réservoir, furent littéralement pulvérisés au-dessus de Lyon. Il n'en tomba point miette sur le sol, et des aéronefs surprises çà et là, sans avoir eu le temps de s'envelopper d'un nuage de gaz isolateur, dont le rôle est analogue à celui de l'huile dans les tempêtes maritimes, s'abattirent désemparés avec leur personnel tué ou blessé. Le plus terrible sinistre eut lieu entre Orléans et Tours. L'Aéronautique Club de Touraine donnait ce jour-là ses grandes régates annuelles. 1 000 ou 1 200 véhicules aériens, de toutes formes et de toutes dimensions, suivaient avec intérêt les péripéties de la grande course du prix d'honneur, où 28 aéroflèches se trouvaient engagées. Tous les regards suivant les coureurs, dans la plupart des véhicules, on ne s'aperçut pas que l'aiguille de l'électromètre s'était mise à tourner follement. Et parmi les hurrahs et les cris des parieurs, on n'entendit même pas la sonnerie d'alarme. Quand on vit le danger, il y eut dans la foule des aéronefs une bousculade fantastique pour chercher un abri à terre. Le millier de véhicules s'abattit à toute vitesse en une masse confuse et enchevêtrée, où les accidents d'abordage furent nombreux et souvent graves. La tournade, arrivant en foudre, balaya tout ce qui n'eut pas le temps de fuir. Il y eut des aéronefs désemparés, emportés dans le tourbillon et précipités en quelques secondes à 50 lieues de là. Par bonheur dans ce désastre, les grandes aéronefs portant les membres de l'Aéronautique Club et leurs familles étaient pourvus du nouvel appareil réunissant l'électromètre et les tubes de gaz isolateurs à une soupape automatique. L'appareil s'ouvrit de lui-même dès que l'aiguille marqua danger, et les aéronefs, enveloppés dans un nuage protecteur, fortement secoués seulement, purent regagner l'embarcadère du club. Si nous revenons à Paris, à l'hôtel Philox Loris, nous trouvons, au plein de la tournade, le quartier de Sannois dans un désarroi facile à imaginer. De terrifiants éclairs jaillissent de partout, et dans le lointain, roulent d'effroyables explosions qui vont se répercutant encore, d'écho en écho, s'affaiblissant peu à peu, pour revenir soudain éclater avec plus de violence. Georges Loris, en chaussons et gantelets isolateurs, regarde de la fenêtre de sa chambre le spectacle du ciel convulsé. Il n'y a rien à faire qu'à attendre, dans une prudente inaction, que le courant fou soit capté. Tout à coup, après un crescendo de décharges électriques et de roulements accompagnés d'éclairs prodigieux, en nappes et en zigzags, la nature sembla pousser comme un immense soupir de soulagement, et le calme se fit instantanément. Les héroïques ingénieurs et employés du poste 28 à Amiens venaient de réussir à crever la tournade et à canaliser le courant fou. Le sous-ingénieur en chef et 13 hommes succombaient victimes de leur dévouement, mais tout était fini. On n'avait plus de désastre à craindre. Le danger avait disparu, mais non les dernières traces de la grande perturbation. Sur la plaque du téléphonoscope de Georges Loris, comme sur tous les télés de la région, passèrent avec une fabuleuse vitesse des milliers d'images confuses et des sons apportés de partout remplirent les maisons de rumeurs semblables au rugissement d'une nouvelle et plus farouche tempête. Il est facile de se figurer cette assourdissante rumeur. Ce sont les bruits de la vie sur une surface de 1600 lieues carrées. Les bruits recueillis partout par l'ensemble des appareils, condensés en un bruit général, reportés et rendus en bloc par chacun de ces appareils avec une intensité effroyable. Au cours de la tournade, quelques graves désordres s'étaient naturellement produits au poste central des télés. Sur les lignes, des fils avaient été fondus et amalgamés. Ces petits accidents ne font courir aucun danger à personne, à condition bien entendu que l'on ne touche pas aux appareils. Georges Loris, ayant pris un livre à illustration photographique, s'installa patiemment dans un fauteuil pour laisser finir la crise des télés. Ce ne fut pas long. Au bout de 20 minutes, la rumeur s'éteignit subitement. Le bureau central venait d'établir un fil de fuite, mais en attendant que les avaries fussent réparées, ce qui allait demander encore au moins 2 ou 3 heures de travaux, chaque appareil recevait au hasard une communication quelconque, qui ne pouvait s'interrompre avant que tout fût remis en ordre. Et, dans la plaque du télé, les figures cessant de passer dans une confusion falote se précisèrent peu à peu. Le défilé se ralentit, puis tout à coup, une image nette et précise s'encadra dans l'appareil et ne changea plus. C'était une chambre au mobilier très simple, une petite chambre aux boiseries claires, meublée seulement de quelques chaises et d'une table chargée de livres et de cahiers, avec une corbeille à ouvrage devant la cheminée. Réfugiée dans un angle, presque agenouillée, une jeune fille semblait encore en proie à la plus profonde terreur. Elle avait les mains sur les yeux, et ne les retirait que pour les porter sur ses oreilles dans un geste d'affolement. Georges Loris ne vit d'abord qu'une taille svelte et gracieuse, de jolies mains délicates et de beaux cheveux blonds, un peu en désordre. Il parla tout de suite pour tirer l'inconnue de sa prostration. « Mademoiselle, mademoiselle » fit-il assez doucement. Mais la jeune fille, les mains sur les oreilles et la tête pleine encore des terribles rumeurs qui venaient à peine de cesser, ne sembla point entendre. « Mademoiselle !» cria Georges d'une voix forte. La jeune fille, tournant la tête sans baisser ses mains et sans bouger, regarda d'un air effaré vers le télé de sa chambre. « Le danger est passé, mademoiselle. Remettez-vous » reprit doucement Georges. « M'entendez-vous ?» Elle fit un signe de tête, sans répondre autrement. « Vous n'avez plus rien à craindre. La tournade est passée. » « Vous êtes sûr que cela ne va pas revenir ?» fit la jeune fille d'une voix si tremblante que Georges Loris comprit à peine. « C'est tout à fait fini. Tout est rentré dans l'ordre. On n'entend plus rien de ce fracas de tout à l'heure, qui semble vous avoir si fort épouvanté. » « Ah, monsieur, comme j'ai eu peur !» s'écria la jeune fille, osant à peine se redresser. « Comme j'ai eu peur !» Mais vous n'aviez pas vos pantoufles isolatrices, dit Georges, qui, dans le mouvement que fit la jeune fille, s'aperçut qu'elle était chaussée seulement de petits souliers. « Non, répondit-elle, mes isolatrices sont dans une pièce au-dessus, je n'ai pas osé aller les chercher. » « Malheureux enfant, mais vous pouviez être foudroyé si votre maison s'était trouvée sur le passage direct du courant fou. Ne commettez jamais pareille imprudence. Les accidents aussi sérieux que cette tournade sont rares. Mais enfin, il faut se tenir constamment sur ses gardes et conserver à notre portée, contre les accidents, petits ou grands, qui se peuvent produire, les préservatifs que la science nous met entre les mains ou aux pieds contre les dangers qu'elle a créés. » Elle eût mieux fait à la science de ne pas tant multiplier les causes de danger, fit la jeune fille avec une petite moue. Je vous avouerai que c'est mon avis, fit Georges Loris en souriant. Je vois, mademoiselle, que vous commencez à vous rassurer. Allez, je vous en prie, prendre vos pantoufles isolatrices. Il y a donc encore du danger? Non, mais cette bourrasque électrique a jeté partout un tel désordre qu'il peut s'en suivre quelques petits accidents consécutifs. Fil avariés, poches ou dépôts d'électricité laissés par la tournade sur quelques points, se vidant tout à coup. La prudence est indispensable pendant 1 heure ou 2 encore. « Je cours chercher mes isolatrices !» s'écria la jeune fille. La jeune fille revint au bout de 2 minutes, chaussé de ses pantoufles protectrices par-dessus ses petits souliers. Son premier regard, en rentrant dans sa chambre, fut pour la plaque du télé. Elle parut surprise d'y revoir encore Georges Loris. « Mademoiselle, » dit celui-ci qui comprit son étonnement, « je dois vous prévenir que la tournade a quelque peu embrouillé les télés. Au poste central, pendant que l'on recherche les fuites, qu'on rétablit les fils perdus, on a donné à tous les appareils pendant les travaux une communication quelconque. Ce ne sera pas bien long. Tranquillisez-vous. Permettez-moi de me présenter. Georges Loris, de Paris. Ingénieur, comme tout le monde. Estelle Lacombe, de Lauterbrunnen Station, Suisse. Ingénieur aussi. Ou du moins presque, car mon père, inspecteur des phares alpins, me destine à entrer dans son administration. Je suis heureux, mademoiselle, de cette communication de hasard, qui m'a permis au moins de vous rassurer un peu, car vous avez eu grand-peur, n'est-ce pas ? Oh, oui. Je suis seule à la maison, avec Gretli, notre bonne, encore plus peureuse que moi. Elle est depuis 2 heures dans un coin de la cuisine, la tête sous un châle et ne veut pas bouger. Mon père est en tournée d'inspection, et ma mère est partie par le tube de 12h15 pour quelques achats à Paris. Pourvu, mon Dieu, qu'il ne leur soit pas arrivé d'accident. Ma mère devait rentrer à 17h, et il est déjà 7h35. Mademoiselle, les tubes ont supprimé tout départ pendant l'ouragan électrique. Mais les trains en retard vont partir. Et madame votre mère ne sera certainement pas bien longtemps à rentrer. Mademoiselle Estelle Lacombe semblait encore à peine rassurée. Le moindre bruit la faisait tressaillir. Et de temps en temps, elle allait regarder le ciel avec inquiétude à une fenêtre qui semblait donner sur une profonde vallée alpestre. Georges Loris, pour la tranquilliser, entra dans de grandes explications sur les tournades, sur leurs causes, sur les accidents qu'elles produisent, analogues parfois à ceux des tremblements de terre naturels. Comme elle ne répondait rien et restait toujours pâle et agitée, il parla longtemps et lui fit une véritable conférence, lui démontrant que ces tournades devenaient de moins en moins fréquentes, en raison des précautions minutieuses prises par le personnel électricien, et de moins en moins terribles en leurs effets, grâce au progrès de la science, au perfectionnement apporté tous les jours aux appareils de captation des fuites de fluide. Mais vous savez cela tout aussi bien que moi, puisque vous êtes ingénieur comme moi, fit-il, s'arrêtant enfin dans ses discours, qui lui semblait quelque peu entaché de pédanterie. Mais non, monsieur, j'ai encore un dernier examen à passer avant d'obtenir mon brevet, et, faut-il vous l'avouer, j'ai déjà été retoqué 2 fois. Je continue à suivre par phonographe les cours de l'université de Zurich. Je me prépare à me représenter 3e fois. Et je travaille, et je pâlis sur mes cahiers, mais sans avancer beaucoup, il me semble. Hélas, je ne mords pas très facilement à tout cela. Et il me faut mon grade pour entrer dans l'administration des phares alpins, comme mon père. C'est ma carrière qui est en jeu. Pourtant, j'ai très bien compris ce que vous m'avez dit. Je vais prendre quelques notes, pendant que c'est encore frais, car demain tout sera un peu brouillé dans ma tête. Pendant que la jeune fille, un peu rassurée, cherchait dans l'amoncellement de livres, de cahiers, de clichés phonographiques qui couvraient sa table de travail, et griffonnait quelques lignes sur un carnet, Georges Loris la regardait, et ne pouvait s'empêcher de remarquer la grâce de ses attitudes et l'élégance naturelle de toute sa personne, dans sa toilette d'un goût simple et modeste. Quand elle relevait la tête, il admirait la délicatesse et la régularité de ses traits, la courbure gracieuse du nez, les yeux profonds et purs, et le front large, sur lequel de magnifiques torsades blondes faisaient comme un casque d'or. Estelle Lacombe était la fille unique d'un fonctionnaire de l'administration des phares alpins de la section helvétique. Depuis le grand essor de la navigation aérienne, il a fallu éclairer à des altitudes différentes nos montagnes, nos Alpes diverses, et les signaler aux navigateurs de l'atmosphère. Nos monts d'Auvergne, la chaîne des Pyrénées, le massif des Alpes, ont ainsi à différentes hauteurs des séries de phares et de feux. L'altitude de 500 mètres est indiquée partout par des feux de couleur, espacés de kilomètre en kilomètre. Il en est de même pour les altitudes supérieures de 500 mètres en 500 mètres. Des phares tournants signalent les cols, les passages et les ouvertures de vallées. Enfin, plus haut, sur tous les pics et toutes les pointes, étincellent des phares de première classe. Brillantes étoiles perdues dans la pâle région des neiges et que l'homme des plaines confond parmi les constellations célestes. Monsieur Lacombe, inspecteur régional des phares alpins, habitait depuis 8 ans l'Outerbrunner Station, un joli chalet établi au sommet de la montée de l'Outerbrunnen, sur le côté du phare, à 1000 mètres au-dessus de la belle vallée, juste en face de la cascade de Stobar. Ingénieur d'un certain mérite et fonctionnaire consciencieux, Monsieur Lacombe était fort occupé. Toutes ses journées, et souvent ses soirées, étaient prises par ses tournées d'inspection, ses rapports, ses surveillances de travaux au phare de sa région. Madame Lacombe, parisienne de naissance, assez mondaine avant son mariage, se considérait comme un exil dans ce magnifique site de l'Outerbrunnen Station, où s'était fondé à 1000 mètres au-dessus de l'ancien Outerbrunnen, un village neuf, avec annexe aérienne pour les cures d'air, c'est-à-dire un casino ascendant à 700 ou 800 mètres plus haut, l'après-midi, et redescendant ensuite pour le coucher du soleil. À l'Outerbrunnen Station, pendant l'été, dans ce chalet suspendu comme un balcon au flanc de la montagne, l'hiver dans un chalet aussi confortable en bas, à Interlaken, Madame Lacombe s'ennuyait et regrettait l'immense et tumultueux Paris. Pourtant les distractions ne manquaient pas. Il passait chaque jour un nombre considérable d'aéronefs ou de yachts. Le véloce aérien London-Roma-Cairo, passant 4 fois par 24 heures, déposait toujours quelques voyageurs faisant leur petit tour d'Europe. De plus, le casino aérien de l'Outerbrunnen, très fréquenté pendant les mois d'été, donnait chaque semaine à ses malades une grande fête et chaque soir un concert ou une représentation dramatique par télé. Madame Lacombe s'ennuyait cependant et saisissait toutes les occasions et prétextes possibles pour reprendre l'air de son cher Paris. Fatiguée de ne participer que par télé aux petites réunions chez ses amies parisiennes, elle prenait de temps en temps le train du tube électropneumatique ou le véloce aérien pour se retrouver une après-midi dans le mouvement mondain, pour se montrer à quelques ciseaux-claques élégants ou tout en prenant les anti-anémiques à la mode, on passe en revue tous les petits potins du jour. On s'imprègne de toutes les médisances et calomnies qui sont dans l'air. Ou bien Madame Lacombe s'en allait un peu boursicoter, tâchait de mettre à flot son budget, trop souvent chargé d'excédents de dépenses, par quelques bénéfices réalisés à la bourse. L'agente de change qui la guidait se trompait souvent, et le budget du ménage s'équilibrait à grand-peine. Monsieur Lacombe n'avait pour revenu que ses appointements, 35 000 francs, et le logement, juste de quoi vivoter à la campagne en se contraignant à une sévère économie. Dure nécessité, d'autant plus que Madame Lacombe aimait aussi à magasiner, et qu'au lieu de se faire montrer par télé, sans se déranger, les étoffes ou les confections dont elle et sa fille pouvaient avoir besoin, elle préférait courir les grands magasins de Paris, et vite filer en tube ou en véloce aérien pour la moindre occasion, pour une idée de ruban qui lui passait par la tête. Cette modeste situation se fût améliorée si Madame Lacombe avait eu ses brevets. Par malheur, au temps de sa jeunesse, en 1930, les exigences de la vie étant moindres, son éducation avait été négligée. Elle n'était pas ingénieure. Ne possédant que ses diplômes de bachelière S-lettres et S-sciences, elle n'avait pu entrer dans les phares avec son mari. Trop bien éclairé sur les difficultés de la vie, Monsieur Lacombe avait voulu pour sa fille une instruction complète. Il la destinait à l'administration. À 24 ans, lorsqu'elle aurait fini ses études et serait pourvue de ses diplômes, elle entrerait comme ingénieure surnuméraire à 6 000 francs, avec certitude d'arriver un jour vers la quarantaine, à l'inspectorat. Alors, qu'elle restât célibataire ou qu'elle épousât un fonctionnaire comme elle, sa vie était assurée. Estelle, depuis l'âge de 12 ans, suivait les cours de l'Institut de Zurich, sans quitter sa famille, uniquement par télé. Précieux avantage pour les familles éloignées de tout centre, qui ne sont plus forcées d'interner leurs enfants dans les lycées ou collèges régionaux. Estelle avait donc fait toutes ses classes par télé, sans sortir de chez elle, sans bouger de Lauterbrunnen. Elle suivait aussi de la même façon les cours de l'école centrale d'électricité de Paris, et prenait en outre des répétitions par phonogramme de quelques maîtres renommés. Par malheur, elle n'avait pu passer ses examens par télé. Les règlements surannés s'y opposant, et, devant les maîtres examinateurs, une timidité qu'elle tenait un peu de son père lui avait nui.